Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.
Bonsoir à toutes et à tous, chers amis footballeurs et amateurs de football, c'est l'heure du débrief, votre nouveau rendez-vous proposé chaque lundi sur Radio VFM et Foot Normand, une heure d'émission, d'analyse et d'échange sur l'actualité du foot en Normandie, en trois parties, une consacrée au Stade Malherbe de Caen, une autre au Havre Athletic Club et une troisième consacrée d'une manière générale à l'actualité du foot en Normandie. Mes coéquipiers pour cette grande première se nomment Mathieu Billot de Foot Normand, salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
Et Régis Picot de Radio VFM, bonsoir Régis.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Pour ce premier débrief, un invité de marque, le président du Stade Malherbe de Caen, Olivier Piqueux, qui est avec nous en studio. Bonsoir président.
Oui, bonsoir messieurs.
Alors on va tout de suite attaquer justement la partie consacrée au Stade Malherbe de Caen, les Canets qui se sont donc inclinés samedi soir à Dornano, une défaite de 2-1 face à Valenciennes pour la 11e journée du championnat de France de Ligue 2, la 3e défaite consécutive à domicile pour les Normands qui n'ont donc pas réussi à bonifier leur probante victoire à Toulouse quelques jours plus tôt. Caen est 12e avec 14 points, à 5 points du 5e mais aussi à 5 points du 18e. L'entraîneur Stéphane Moulin a fait part de sa grosse déception en conférence de presse après la défaite samedi soir, il a même fait part de son inquiétude pour la suite. Olivier Piqueux, est-ce que vous partagez le sentiment de votre entraîneur ?
Ben, je le connais bien pour être capable d'avoir passé la soirée avec lui après ce match et analyser ce moment. Je crois que c'était normal qu'il réagisse comme ça. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de déception, mais en même temps, voilà, ça doit être l'histoire de notre projet. Il est arrivé au mois de juin dernier. Ça fait à peine 4 mois qu'il est là. Et ce qui est important dans les moments comme celui-là, c'est de rester dans notre ligne de conduite et continuer à persévérer. Et je pense que c'est le mot que j'ai envie d'envoyer au staff, à Stéphane. C'est la persévérance. On est dans un projet magnifique. C'est vrai que la frustration est née de cette victoire à Toulouse quelques jours avant où on avait montré un tel visage et puis aussi du match que nous avions fait quelques jours avant contre Dijon avec ce que nous avons vécu avec notre public, avec ces décisions arbitrales contraires, avec ces points qui nous sont échappés. Mais si on doit faire le calcul véritablement de ces trois derniers matchs, c'est une victoire contre Dijon qui devrait nous être donnée, un club qui vient de descendre de Ligue 1, une victoire à Toulouse qui n'avait pas encore perdu un match et nous sommes les premiers à l'heure fait tomber, et un non-match contre Valenciennes, où c'est vrai que ce but contre notre camp a changé un petit peu les destins de notre soirée. Une réaction pas à la hauteur de la qualité de notre groupe et notre projet, et qui crée toute cette communication de notre coach, bien légitime, mais je le connais.
Donc plus de la déception que de l'inquiétude chez vous finalement?
Ben, la déception, heureusement qu'elle est là, il y a une impatience, je suis avec des professionnels, avec un coach qui a une ambition énorme pour ce projet, un staff également, et qu'il fasse part de sa déception. Oui, son inquiétude, c'est un grand mot, je pense que c'est pas forcément la communication qu'il voulait faire, mais une déception évidemment, et je le connais assez après toutes ces années pour savoir que son énergie va être énorme pour préparer ce derby.
Est-ce que l'entretien que vous avez eu avec lui après, vous avez senti le besoin en tant que président de rebooster un peu votre entraîneur? On l'a vraiment marqué quoi.
C'est tout ce qui crée notre relation depuis toutes ces années. On va attaquer la 15e année de travail ensemble. C'est un moment où il a besoin de moi, je le ressens comme ça. Nous avons tous pensé qu'après ce match de Toulouse, la saison était lancée, que les choses allaient s'aligner et on marque contre notre camp. Donc il y a un moment où on se dit ok, il nous faut encore, et c'est difficile, et il nous faut encore travailler énormément, et je réponds oui. Est-ce qu'il a besoin de moi en ce moment? Je serai là tout le temps pour lui, peut-être encore plus dans un moment comme celui-là, parce qu'il avait envie de faire plaisir à notre public, il avait ce sentiment que le dernier match contre Dijon avait été un moment pénible pour tout le monde, et qu'après cette belle victoire à Toulouse, il avait, et je le connais assez pour vous dire qu'il avait envie de rendre beaucoup de joie à notre public qui répond présent depuis le début de saison. Donc tout ça mêlé entre cette déception et ce non-match, parce que quand même le match il était moyen, hein, il faut le souligner. Voilà, ses propos ont été comme ça, mais on est déjà préparé là, il est déjà prêt, il me l'a dit, pour attaquer la semaine.
Ouais, alors justement, quand vous voyez ce premier quart de saison, pour vous, à quoi peut prétendre cette équipe cette année alors?
Je pense qu'on progresse, même si tout n'est pas encore aligné. On a 6 joueurs aujourd'hui qui sont blessés, des joueurs importants dans notre projet. Je peux dire 6 titulaires. Aujourd'hui, si on doit imaginer la feuille de route du départ, mais Johan Cour, Nuno Da Costa, Ibra Cissé, Kylian Ensona, Hugo Van Der Mech ou Benjamin Jeannot, c'est 6 joueurs potentiellement titulaires dans notre projet, pour lequel malheureusement il n'a pas encore la possibilité de les faire jouer. Donc le groupe n'est pas encore équilibré ni aligné, les recrues sont arrivées tardivement. Sur les 5 recrues, 3 sont arrivées le dernier jour du mercato. Donc voilà, beaucoup d'impatience, mais qui est logique par rapport à ce qu'il a connu et tout le travail qui a été réalisé. Moi aujourd'hui je dois ramener beaucoup de sérénité, et ce qui doit aussi caractériser notre parcours et notre début de championnat, c'est se dire que voilà, ce groupe progresse, travaille à une écoute incroyable, est capable de faire des grandes performances et de changer des résultats, mais pour le moment tout n'est pas encore aligné, on doit continuer à travailler.
Mathieu Billot, Foot Normand.
Est-ce que la plus grande difficulté que vous avez, président, c'est de faire comprendre à l'environnement du club, les supporters, les observateurs, les partenaires, que votre projet va prendre du temps. Que c'est pas parce que vous êtes arrivé, que vous avez fait venir Stéphane Moulin, son staff, qu'en un claquement de doigts, Malherbe va être un prétendant à la montée en Ligue 1.
Franchement, je ressens pas ça, Mathieu. Je ressens une grande confiance des élus, de nos partenaires, de nos groupes de supporters et notamment du président des groupes de supporters que je rencontre régulièrement. Ils ont une très grande confiance dans le projet. Et c'est peut-être ce qui crée la frustration du coach et la mienne en même temps, hein. C'est de se dire ok, c'est top, l'environnement est génial, à nous de démontrer tout le travail que nous sommes capables de faire et la qualité du staff que j'ai fait venir dans notre nouveau projet. Donc c'est un drôle de mélange entre une envie de faire plaisir, une envie de partager des moments de joie et ce que nous avons vécu pour le moment et qui n'est pas encore suffisant par rapport à l'attente. Mais la confiance est là, je la ressens de tous les côtés, je la ressens de la vie de nos partenaires. Et donc, et même après ce match, vous avez vu, il n'y a pas eu de débordement ni quoi que ce soit. Il y a eu une tristesse, une déception, mais en aucun cas un manque de croyance sur le projet. Donc on doit continuer, on doit montrer beaucoup de force, de caractère et de persévérance. Je l'ai dit, j'ai envie de répéter cet adjectif parce que c'est ce qui doit nous caractériser pour changer la courbe.
Olivier Piqueux, vous êtes le premier invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand ce lundi soir. On a évoqué avec vous le début de saison, l'aspect sportif évidemment du stade Malherbe de Caen. Mathieu Billot va maintenant effectivement évoquer avec vous, Olivier Piqueux, la situation économique.
Oui, président, vous êtes arrivé dans un contexte un petit peu particulier à ce niveau-là, avec un club qui perdait environ 10 millions d'euros par saison, ce qui vous a amené à faire, avec les propriétaires du club, des choix, notamment un plan social assez important. Un an après, où en est le club au niveau économique? On peut rappeler qu'à l'exception d'Ibrahim Cissé, c'est le seul transfert payant que vous avez réalisé depuis votre arrivée, sinon c'était que des joueurs libres ou des prêts.
Oui.
Où en est un petit peu le club de ce point de vue-là?
Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été réglées et réalisées pendant ma première année de présidence, suffisamment pour être à l'équilibre financier, je vous dirais non. Donc voilà, mais la phase la plus difficile a été passée. Ce qui est important de souligner, c'est l'accompagnement de nos actionnaires dans une période de crise comme nous avons connu entre Mediapro et la Covid. C'était incroyable d'être capable de pouvoir démontrer l'accompagnement financier qui a été fondamental pour pouvoir repartir cette saison et de créer aussi ce nouveau groupe et me permettre de pouvoir travailler avec Stéphane Moulin et son staff. Et je tiens à le souligner, les remercier devant vous. Donc voilà, tout n'est pas encore réglé. On a encore beaucoup de paramètres et de d'éléments financiers à mettre en forme dans un format Ligue 2. Mais on s'y prépare. L'idée, c'est de continuer à baisser la masse salariale notamment. On l'a fait plus de 30%. Et il y a dans le business model que j'ai proposé à la DNCG une baisse de la masse salariale si demain nous jouons encore en Ligue 2. Donc le process d'économie et de mise en place d'un budget cohérent par rapport au niveau dans lequel nous sommes est en train d'être mis en place. Et ce qui va demain devoir nous permettre de pouvoir être beaucoup plus ambitieux, c'est effectivement la phase où nous serons à l'étage supérieur, parce que nous sommes en train de préparer, et je suis en train de préparer les équipes administratives, commerciales, centres de formation, avec un objectif de pouvoir être compétitif en Ligue 2, mais aussi être capable de se réaliser en Ligue 1, sans avoir des besoins d'économies plus importantes, et donc de permettre de vivre avec... avec un club équilibré et qui peut même commencer la phase nouvelle, c'est de faire des bénéfices. Voilà, il nous faut encore un peu de temps. C'est pour ça que j'ai parlé de l'an zéro. Si vous vous souvenez, le 18 juin dernier, avec l'arrivée de Stéphane, 20 joueurs sont partis. On a baissé le budget de façon très conséquente. Et j'ai dit, on a une phase de construction qui doit nous amener d'ici à 3 ans, à l'aube de 2024, à avoir un club, si ce club doit... passer le palier d'aller à l'étage supérieur, d'être prêt financièrement et dans sa structure et dans son organigramme.
Donc, voilà la feuille de route. Oui, en vous écoutant, on peut dire que c'est 3 ans ce que vous fixez pour remonter en Ligue 1.
Oui, j'ai demandé, c'est la feuille de route que j'ai donnée à Stéphane. Voilà, et son staff. J'ai dit, aide-nous à progresser. Entre le travail de formation et la post-formation, et nos jeunes joueurs qui ont intégré le groupe professionnel la saison dernière, en fin de saison dernière, la vente d'un de nos joueurs issus de la formation, Alexis Beka, c'est de continuer à faire progresser ce club pour amener le Stade Malherbe au niveau supérieur. Je lui ai donné une échéance de 3 ans. On avait commencé un projet comme ça avec Stéphane de 5 ans à l'époque, quand il a pris l'équipe première en Ligue 2, quand nous étions ensemble à Angers. Et je considère qu'on avait un peu plus d'avance parce que la formation existe déjà au Stade Malherbe et que le temps, en tout cas, était cohérent par rapport à... Enfin, la durée, pardon, était cohérente avec ces 3 années. Donc voilà, on est à 4 mois de ces 3 années. Évidemment que si ça doit nous arriver plus tôt, on va le prendre. Et évidemment que si d'aventure, nous ne sommes pas capables d'y arriver dans 3 ans, il faudra continuer à se poser des bonnes questions et savoir si effectivement les étapes que nous avons passées pendant cette période sont très positives pour le Stade Malherbe. Ça... J'en ai la certitude que le temps de travail pour nous, le temps de travail pour Stéphane et pour l'organisation, et qu'en même temps, dans la communication, je dois aussi envoyer des choses très positives à nos supporters, à nos partenaires. Voilà la phase. Mais je ne veux pas mentir, je veux annoncer la vérité, et même si parfois il peut y avoir un peu d'impatience et de frustration, mais en tout cas c'est la feuille de route.
Mathieu Billot, Foot Gourmand.
Président, je vais mettre un peu à la place d'un supporter, vous évoquiez le départ d'Alexis Beka qui est parti au Lokomotiv Moscou, une vente relativement importante à l'échelle du Stade Malherbe et à l'échelle d'un club de Ligue 2 surtout, 6 millions d'euros plus différents bonus.
Oui.
Le supporter se demande des fois à quoi sert cet argent. Il se dit, il n'est pas forcément réinvesti aujourd'hui, on va dire, dans l'effectif, en termes de transfert, dans le sens des arrivées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Oui, bien sûr, Mathieu. Alexis nous a permis de trouver les moyens d'équilibrer un peu plus les finances de notre club pour clôturer la saison 2021. Demain, j'espère très rapidement, quand le club aura trouvé une stabilité financière, les finances liés à un transfert vont se répartir de la façon suivante. 33% qui iront sur des réinvestissements, 33% pour les fonds propres et 33% pour le développement de notre club sur les installations, sur le développement de notre centre de formation qui est un des éléments clés de notre projet. Donc voilà, on n'est pas encore dans cette phase-là parce que le club perd de l'argent. Donc malheureusement, on a fait un investissement et les actionnaires ont été d'accord pour un investissement minime, 300 000 euros pour Ibrahim Cissé, mais c'était quand même un signe important. C'était un signe important dans la phase dans laquelle nous sommes passés. Mais évidemment, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre que je souhaiterais. C'est la phase qui doit venir, et j'espère le plus tôt possible, pour répondre effectivement à l'attente de nos supporters.
Vous faisiez référence, l'arrivée d'Ibrahim Cissé a été permis grâce à l'investissement des actionnaires et propriétaires du club.
Oui.
C'est pas forcément des personnes qu'on voit tout le temps en avant, que ce soit Pierre-Antoine Capton ou le fonds d'investissement Octree, mais c'est aujourd'hui peut-être grâce à eux aussi que le club a passé l'obstacle de la DNCG sans forcément des contraintes budgétaires qui ont été liées.
Le club était dans une grande difficulté et je crois qu'il y a eu une intelligence incroyable des anciens actionnaires pour être en capacité à accepter cette passation. Et je dis bien cette passation parce que, vous savez, j'ai commencé ma carrière ici en 89, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ce club, je l'ai dans les tripes et je l'ai dit. Et donc voilà, j'ai suivi toute l'histoire du projet et les différents présidents qui sont succédés ces derniers temps. J'ai été élu et nommé en conseil de surveillance alors que l'actionnariat n'était pas encore réalisé. L'actionnariat a été réalisé et finalisé en octobre et j'ai été nommé par le conseil de surveillance au mois d'août, ce qui était une preuve de conscience, une marque de confiance pour moi exceptionnelle. Et justement, et quand je dis souvent qu'il y a des amoureux dans ce club, les actionnaires ont fait preuve d'une intelligence et d'un amour pour le club pour être en capacité à pouvoir accepter que les actionnaires devaient une nouvelle pôle d'actionnaires devait arriver. Et l'arrivée d'Octry a été prise de façon très positive. Vincent Catherine représente le fonds d'investissement et a fait un travail remarquable pour pouvoir venir intégrer ce club et lui permettre d'être encore en vie là aujourd'hui et de commencer ce travail que j'ai entamé le 29 août dernier avec l'aide de Pierre-Antoine Capeton. Voilà, le projet a commencé, mais je veux oublier personne. La passation s'est faite, c'était important pour moi. Et aujourd'hui, avec toutes ces forces qui existent au Stade Malherbe, je suis persuadé que nous avons les moyens dans les mois qui viennent pour faire redorer ce magnifique club à l'étage supérieur.
Président, vous évoquiez tout à l'heure le transfert d'Alexis Bekabeka. On imagine bien l'intérêt du Stade Malherbe puisqu'il s'agit là d'un transfert sec. Juste un mot sur le prêt avec option d'achat de Nicolas Gioacchini à Montpellier, où effectivement c'est peut-être moins parlant dans le sens où il s'agit d'un prêt. Qu'est-ce que le Stade Malherbe avait gagné, notamment un allègement de la masse salariale, du moins dans un premier
temps. D'abord une ambition de Nico Gioacchini d'aller à l'étage supérieur. Il a gagné la Golden Cup avec les États-Unis et des sollicitations. Après, les sollicitations et les montants qui étaient proposés pour Nico Gioacchini ne me permettaient pas d'accepter sa vente directe. Donc voilà, Laurent Nicolin, qui est le président de Montpellier, qui est un de mes amis, m'a sollicité pour prendre Nico. On ne s'est pas mis d'accord dans un premier temps sur le transfert. J'ai dit, écoute, prends-le en prêt avec une option. Ça te met dans une bonne situation, toi, pour sportivement lui permettre de continuer à progresser. J'avais un joueur qui était très motivé à l'idée d'aller à l'étage supérieur. Et en termes de visibilité et de possibilité demain financière de renforcer notre économie, c'était intéressant. Et aussi un message envoyé à nos jeunes joueurs du club, c'est que quand le costume devient trop petit, j'ai la possibilité de vous envoyer au-dessus et garder en fil que le Stade Malherbe prenait la décision en dernier. Donc Nico est parti là-bas, on verra, on a une option à 2 millions d'euros, Montpellier n'est pas obligé de la lever et je peux aussi le vendre beaucoup plus cher, ou alors il reviendra avec nous pour continuer à nous amener toute sa qualité.
Régis Picot, Radio VFM.
Oui, alors comment on peut avoir finalement, président, une équipe plus performante dans les mois, dans les saisons à venir et des restrictions budgétaires quand même importantes aussi.
D'abord, on a diminué le nombre de joueurs. Il y avait 45 joueurs sous contrat quand je suis arrivé. On est passé à un effectif de 22 joueurs de champ et 3 gardiens. Donc c'était la première phase que j'avais demandé à Johan Eudlin. Donc c'est 20 joueurs qui sont partis cet été et c'est énorme dans une situation où vous avez vu le marché n'existe pas. Donc c'est la première phase importante. Et ensuite, effectivement, ça sera d'être en capacité à aller trouver des joueurs qui sont à relancer, des joueurs qui sont dans une phase un peu plus difficile mais qui ont un potentiel pour nous aider à franchir le palier avec la possibilité comme Nuno Da Costa d'être prêté ou Mehdi Chaïri d'être prêté par des clubs d'étage supérieur où une partie de leur salaire est pris en charge pour me permettre de pouvoir les récupérer. Mais effectivement, il va falloir être malin. C'est des phases par lesquelles j'ai dû passer en étant à Angers qui m'inquiètent pas du tout. Et donc voilà, donc on va aller chercher des joueurs compétents qu'on relancera à l'image de Wadja qui n'a pas joué pendant 2 ans et qui nous permet de l'avoir économiquement. Alors est-ce que le résultat est de suite? Je vous dis non. D'accord, mais c'est ce travail de construction que je demande au staff méthodique et professionnel qui doit nous permettre de baisser cette masse salariale et d'avoir des meilleurs résultats. C'est pas une logique économique, hein, d'accord, mais pourtant c'est ce que je demande à tout le monde.
Olivier Piqueux, la première partie de cette émission du débrief touche à sa fin. Une dernière question vous est posée par Mathieu Billot de Foot Normand.
Non, juste pour revenir sur le cas de Nicolas Gioacchini, le club aussi aurait pu le vendre bien plus cher dès cet été, enfin dès ce mercato. Si Nicolas avait accepté
à une offre aux États-Unis par exemple. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est vous savez, Alexis Bekabeka m'a dit je veux aller au Lokomotiv Moscou. Il avait une proposition qui était magnifique de l'OGC Nice, il voulait aller au Lokomotiv et on a trouvé un accord et qui me paraît fondamental, c'est la relation avec mes joueurs et j'ai besoin qu'ils m'envoient l'information. pour revenir sur Nico Gioacchini, il a des offres qui arrivent des États-Unis avec la popularité qu'il a dans un pays exceptionnel, mais il veut pas aller. Donc les offres, ça veut rien dire. Les offres, c'est quand tout le monde est aligné, c'est quand les clubs sont d'accord pour acheter, c'est quand je suis d'accord pour vendre et quand le joueur a envie d'y aller. Et pour Nico, tout n'était pas aligné. Donc voilà, j'ai envie de dire bon vent pour lui et belle saison avec le Montpellier Hérault. Et puis reviens-nous plus fort et on verra quelle décision sera prise à la fin. Mais personne ne partira sans une énergie positive et parce que c'est la meilleure communication, c'est quand nos joueurs partent et sont heureux.
Merci beaucoup Olivier Piqueux, merci. Restez bien avec nous car dans la deuxième partie on va parler du Havre Athletic Club mais aussi du Stade Malherbe de Caen et notamment de ce derby qui aura lieu le samedi 16 octobre à 19h.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand et c'est le lundi soir à partir de 18h15.